Les conférences du Collège de France.
Bonjour à tous. Merci d'être venus encore si nombreux pour cette deuxième conférence d'Ourik Sourousian, donc professeur invité au Collège de France. Et cette deuxième conférence va porter aujourd'hui sur les groupes statuaires. Et donc je te laisse tout de suite la parole, Ourik. Merci.
Merci Laurent, et encore merci pour l'invitation, je suis ravie. Alors, les groupes statuaires, il y en a finalement beaucoup plus que je ne pensais, et beaucoup plus de catégories et plus de types, donc j'ai coupé. Je vous présenterai certains types, quitte à, si vous avez des questions, qu'on discute après, et peut-être, vous n'entendez pas ? Qu'est-ce que je fais ? Là, vous m'entendez ? Non ?
Le technicien va monter le
son. Ah ouais, d'accord. Oui, vous m'entendez maintenant ? Oui ? Bien. Alors, je disais que il y a beaucoup plus de types et beaucoup plus de catégories de groupes statuaires. Donc j'ai dû réduire, mais à tout moment vous pouvez me poser des questions si quelque chose manque. Donc je commencerai, cette belle image que vous avez vue, c'est les statues qui sont dans le sanctuaire d'Abu Simbel, vu jadis avec ses couleurs. Donc je reviens au temple de Wadi Seboa avec ses sphinx, ses statues. Seboa, c'est en arabe, c'est les lions. Hein. Wadi Seboa, c'est la vallée des lions. Il semble qu'en arabe, il n'y ait pas encore un mot pour désigner le sphinx tel que nous l'entendons. Le grand sphinx de Giza s'appelle Abul Hol, mais au Moyen Âge, il y avait un mot en arabe qui était fait pour dire que ce monument-là sert à repousser le sable du désert. Donc il avait un autre rôle que ce qu'on lui attribue maintenant. Abul Hol, c'est le père de la terreur et c'est horrible, c'est pas une créature terrible, horrifiante, le sphinx. Donc il faut imaginer que devant ce temple, comment ça se marche comme ça, il faut vous imaginer qu'il y avait le temple comme tout. Presque tous les temples d'Égypte étaient au bord du Nil. Imaginez un quai dont il reste très très peu en Égypte. Le quai à ma gauche, c'est donc à votre gauche, le temple de Louxor, qui a encore, si vous le repérez bien, là où sont les bateaux, un quai débarcadère ancien que je vous montre à droite. Et au temple d'Esna, il y a encore, quand vous venez en bateau ou quand vous venez en taxi, jetez un coup d'œil en bas avant d'acheter vos billets, il y a encore un quai là-bas, en mauvais état, mais quand même bien conservé. Et donc imaginez, et au fait, à Esna, si vous avez l'occasion d'aller très vite en Égypte, ils ont, le service des antiquités avec l'université Göttingen, ont nettoyé entièrement, c'est merveilleux. Je vous ai mis un petit peu une petite image là pour vous donner l'envie de voir ça, c'est absolument fabuleux. Il y a des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir, et Christian Leitz qui s'en occupe a déjà vu en peinture des signes qui n'étaient pas visibles. Tout cela était était noir, comme vous savez. Donc Esna à voir. Et il y a aussi, et il faut imaginer un quai débarcadère, une rampe pour les bateaux comme ici à Karnak. Une fois franchi, je vous montre des vieilles vues où l'avenue processionnelle qui menait vers l'entrée du temple était complètement ensablée, comme vous voyez là avec une image de Francis Firth. Et ensuite, il y a eu, avec la crue du Nil, à des moments donnés, les sphinx de l'avenue étaient à l'eau, comme vous voyez ici. Le service des antiquités a fait un effort considérable pour transporter le temple entièrement sur le nouveau site, et c'est là où on peut le visiter aujourd'hui. Le temple est publié par Henri Gautier dans Les Temples immergés, et une très très bonne description et bien illustrée. Donc, une fois passé, vous devez imaginer depuis le quai une avenue processionnelle. Est-ce qu'elle était flanquée de sphinx aussi? On ignore. Mais une fois arrivé à la porte, il y avait une enceinte de briques et cette porte-là ouvrait sur le temple. Des deux côtés, les briques ont disparu maintenant. Voici la porte d'entrée de l'enceinte. Et à gauche et à droite, vous avez deux groupes statuaires. C'est des groupes parce que c'est placé sur un même piédestal. Il y a une statue du roi debout, dans l'attitude de la marche, un sphinx androcéphale et un petit sphinx hiéracocéphale que je vais vous montrer. Donc c'est un groupe statuaire, c'est un ensemble. Et dans les vieilles photos, avant le déménagement, vous voyez là, ah voilà, je l'ai. Vous voyez là le petit sphinx, ici, tourné vers le passage axial, et là encore un, juste devant les pieds de la statue royale. Ces sphinx sont à l'intérieur de la cour maintenant, posés sur des petits socles. Parce qu'on a peur de vol et on a peur de vandalisme. Donc imaginez que le groupe statuaire avait autrefois un petit sphinx hiéracocéphale devant le roi. Alors chaque groupe, c'est un groupe statuaire proprement dit. Ce ne sont pas des statues à voir séparément. Posées sur un haut piédestal, ici, qui est décoré de... Pour commencer ici, la partie du socle qui est sous les pieds du roi, il y a une représentation de Yun Mutef, le prêtre qui consacre des offrandes et qui prie. Le côté du socle est décoré par les captifs ligotés. Vous savez que depuis la pré-dynastie, il y a des captifs sous les pieds de Sa Majesté qui sont là, agenouillés, ligotés et qui font le tour du socle. Sur ce haut piédestal, donc, complètement décoré, il y avait une base qui était réservée au sphinx androcéphale. La base est inscrite avec la titulature de Ramsès II. Et voici la statue. Je vous ai montré brièvement comment le costume, qui était la chaîne dite normale plissée, a changé sous la 18e dynastie, au cours des règnes de Thoutmose IV et d'Amenhotep III. C'est ce pagne avec le pagne d'apparat avec un tablier bien ouvragé que porte le roi. Il est debout dans l'attitude classique, le pied gauche avancé, et il porte comme coiffure, il a le némès, par-dessus le némès, la double couronne. Cette double couronne a aussi été ajoutée au némès habituel au cours de la 18e dynastie. De l'autre côté, voilà la photo ancienne où vous voyez quelques détails mieux éclairés. Les captifs et le petit sphinx qui à tête de faucon qui est tournée vers le passage axial. De l'autre côté, c'est en miroir, en symétrie, c'est la même, mais pas pour la jambe. Hein. La jambe avancée, c'est la gauche. Vous voyez le pagne retenu par une ceinture qui est décorée de zigzags. Et dans la boucle de la ceinture, il y a le nom royal. De la ceinture tombe la tête de guépard. Qui est très en vogue depuis la 18e dynastie. Alors, ça se répète ici. Là, c'est beaucoup plus clair. Les Yom Motef qui récitent de part et d'autre des deux cartouches du roi posées sur des signes de l'or. Et voici les captifs, les Asiatiques ligotés et agenouillés sous les pieds de Sa Majesté. Le sphinx, lui, endocéphale, est là. La corne que vous voyez n'est pas est celle des sphinx qui vont suivre. Encore la photo ancienne avec le petit sphinx. Et quand on passe, maintenant on voit de l'autre côté, du côté du temple, et là ce sont les tentes pendant les travaux du déménagement du temple. J'ai toutes ces photos en noir et blanc, sont courtoisies du centre de documentation. C'est des archives du Conseil suprême des antiquités, gardées au centre de documentation. Donc la porte franchie ici, vous arrivez dans une première cour qui, elle aussi, était bordée de sphinx individuels cette fois. En voici, je vous montre un exemple mieux conservé. Il y en avait 6. Les numéros en rouge se réfèrent à mon catalogue de la statuaire des statues royales de la 19e dynastie. Vous pouvez consulter, l'IFAO a fait non seulement un excellent travail d'édition, mais encore vous pouvez télécharger je ne sais pas si j'ai, mais le site de l'IFAO est connu, vous pouvez télécharger et voir. Donc ça, c'est le numéro 251. Ce sphinx-là, androcéphale, ont eux-mêmes une base posée sur un socle plus haut, et où il y a à nouveau les Yumutef qui donnent sur le passage axial cette fois. Et dans la titulature, avec chaque sphinx, la titulature du roi Ramsès II se termine par, après ses noms et ses épithètes post-jubilaires, il est dit, le roi a fait ceci comme son monument pour son père Amon-Ré, que vous voyez ici, Amon-Ré, roi des dieux, l'acte de faire un grand sphinx. Donc ces sphinx-là, et l'écriture se répète sur tous les 6 sphinx, donc ceci est fait pour Amon-Ré, roi des dieux, ce sphinx-là. Il a le visage humain emprunté au roi, parce que le roi donateur du temple prête aussi ses traits au dieu à qui il fait la donation. Et il porte, comme j'ai dit, par-dessus le Némès, la couronne, la double couronne. Ça, c'est un des sphinx sur le côté gauche, quand vous êtes dans le passage. Encore un, dont la tête n'est plus à Wadi Seboha. Il y a quelques années, une exposition de Returned Objects, des objets rapatriés. Vous voyez là le panneau au musée du Caire. Et la tête et une partie de la couronne étaient exposées là-bas. En ce moment, je ne suis plus retournée à Wadi Seboha depuis le temps où j'ai pris les photos. Je ne sais pas si la tête a été remise ou non. Si quelqu'un y est allé, me dise. La tête est officiellement au musée égyptien du Caire. Quand on passe donc à nouveau, on franchit cette fois la porte de cette cour et on arrive dans une deuxième cour où il y a maintenant une autre catégorie de sphinx, des sphinx iacocéphales beaucoup plus grands qui protègent le roi contre leur poitrail. Ça, c'est un type extrêmement original en statuaire colossale, c'est assez rare. Vous voyez ici le faucon. Et les 4 faucons qui sont représentés avec le roi contre leur poitrail, ce sont les différents Horus. Horus de Miam, Horus de... Je crois que j'avais mis les noms là. Attendez. Oui, Horus seigneur de Mecha, de Miam, de Baki et de Behedet, respectivement. Donc ce sont quatre formes d'apparition du dieu Horus, dans ce cas, en sphinx. Et devant leur poitrail, il y a le roi. Malheureusement, cette statue-là, ça c'est une vieille photo, le haut du roi n'existe plus en ce moment, Wadi Seboa. Et je ne sais pas encore, je n'en suis pas arrivée à situer où c'est, mais ça devrait exister dans une des réserves d'Aswan ou de là. En tout cas, belle photo du centre de documentation que vous voyez ici, avec le roi debout, jambe gauche avancée, portant le Némès et mettant les mains à plat sur une longue jupe qui, elle aussi, a un devanteau très, très ouvragé qui se termine avec une frise d'uréi. Donc, c'est un tablier d'orfèvrerie où il y avait aussi de l'or, naturellement. Et ça, c'est aussi très en vogue à l'époque ramesside, cette longue jupe. Dans les représentations, vous la voyez, elle est presque transparente. Et ici, elle est solide, donc... En voilà une de profil avec la titulature royale. Cette fois, il n'y a pas de captif ligoté. Et donc, j'avais commencé par dire que le lion, depuis l'époque pré-dynastique, est présent partout. Je n'avais pas eu le temps de vous montrer des représentations de sphinx et de griffon, de sphinx hiéracocéphale, justement, piétinant les ennemis représentés au départ, à l'entame des chaussées des pyramides d'Abou Sir, par exemple, à Sahouré. Donc, le lion existe toujours. À un moment donné, il va changer d'aspect, mais il sera présent dans l'architecture. Et n'oubliez jamais que la statuaire fait partie intégrante de l'architecture du temple. Donc, le lion sera présent sous tous ses aspects, avec toutes ses catégories, tous les types qui le caractérisent, jusqu'à l'époque romaine. Au temple de Philae, vous verrez deux des plus récents sphinx de l'histoire de l'art égyptien. Donc, voici quelques exemples de l'ancien empire. Par exemple, figure de lion trouvée à Hierakonpolis, à Nechen, dans le dépôt, un des dépôts, et puis un sphinx trouvé dans l'ensemble funéraire de Sahouré. Et là, deux sphinx de l'ancien empire, un au Metropolitan Museum of Art et l'autre au musée du Caire. Vous voyez, c'est une crinière très stylisée, rendue en bas-relief sur les épaules et sur le dos, scindée au milieu, là. Et c'est, souvenez-vous de cette manière de présenter à l'ancien empire, et vous verrez comment cela va évoluer. Donc, le lion, au départ, il est un vrai lion, il ressemble à un lion, mais au Nouvel Empire, sous l'influence du grand sphinx de Gizeh, qui a été à ce moment-là vénéré comme dieu, et à ce moment-là, on lui a ajouté une barbe tressée divine. On a eu recours à la même iconographie ici, à Memphis, la barbe tressée, donc c'est un dieu. C'est un sphinx colossal, ça devrait être le troisième plus grand après le grand sphinx, en albâtre égyptien. Et je vous montre cette photo ancienne par nostalgie, parce que maintenant c'est complètement différent quand vous visitez Mitraïna. Les palmiers et tout cela, c'est très nostalgique. Je vous ai laissé entrevoir que le lion donc se transforme dès la 4e dynastie en une créature hybride qui a le corps d'un lion, mais une tête humaine à l'image du roi régnant qu'il a fait. Comme M. Yoyot une fois m'a dit, les sphinx sont à des lions à tête d'homme, pas des sphinx, ou il vaut mieux dire à tête d'homme. Donc je retiens. La tête d'homme, l'homme étant le roi naturellement, Il n'y a pas de sphinx de particulier. Il n'y en a pas. Il y a un tout petit sphinx, peut-être pré-dynastique, trouvé à Giza par Krömer, qui a une tête avec une coiffure frisée. C'est le seul sphinx que je connaisse qui n'est pas de Némès ou qui n'est pas une autre coiffure divine ou royale. Donc, c'est toujours le roi ou le dieu, comme vous avez vu, le représentant de Dieu. Donc, moi, je pense à ce que Rainer Stadelmann avait dit jadis, que le grand sphinx de Giza, c'est l'œuvre de Khéops et non pas de Khéphren. Et il a ses arguments, je vous laisse lire, j'ai mis là les articles, et il en a d'autres, mais j'ai fait un choix spécialement dans le colloque organisé et publié par Nicolas Grimal à l'IFAO sur les critères de datation stylistique de l'Ancien Empire, où il a présenté ses critères à lui, ainsi qu'à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et l'auditoire avait l'air ravi. Mais contre cette opinion, qui est fondée sur certains critères assez convaincants, mais on n'a pas de nom sur le monument, donc tout est ouvert. Et l'attribution à Khéphren, à laquelle tiennent Mark Lehner, Zahi Hawass, depuis longtemps, et ils sont l'auteur de cette représentation, il y en a des deux côtés, qui vous montre le sphinx donc au Nouvel Empire, avec l'ajout d'une barbe tressée, dont il y a des morceaux au musée du Caire, un autre au British Museum, devant lequel il y avait un roi, dont on n'a aucun fragment, mais il y a des stèles à Giza, trouvées par Selim Hassan, les stèles où il y a des représentations d'individus qui adorent le sphinx et où il y a aussi les pyramides représentées parfois. Donc, au départ, et ça n'existe pas en vérité, on n'a pas de nom. Le nom de Khéphren, le successeur de Khéops, vient uniquement du fait que longtemps plus tard, quand Thoutmôsis IV était prince sous la 18e dynastie et qui a laissé la stèle qui est entre les pattes du grand sphinx, qui dit avoir vu un rêve. Il était prince, il allait à la chasse comme le faisaient les princes dans le désert qui entoure le sphinx. Il a vu un rêve, le sphinx lui dire « si tu me désables, il avait les flancs complètement ensablés, « si tu me désables, tu seras couronné roi ». Donc, c'est ce qu'il fit, et il fut couronné roi. Alors, à la fin de la stèle, le texte dit « alors, Sa Majesté est allée visiter telle chapelle, la chapelle d'Isis et des divinités, puis, il y a une lacune, et de Khéphren ». Cela ne veut pas dire que c'est Khéphren. Et même de siècles après, ce n'est pas un argument. Donc, je ne crois pas à ça. Mes arguments sont, d'abord, malgré tous les efforts de Mark Lehner de faire superposer les faces de Khéphren et du Sphinx, moi, je ne suis pas convaincue. Et les arguments d'autres qui disent qu'on ne peut pas comparer le grand sphinx, le plus grand des monuments égyptiens, avec la petite statue de Khéops. Si, on peut. Les archéologues classiques comparent avec des médailles pour dater des têtes des statues. Donc, ce n'est pas un argument contre. En plus, moi, je pense, mon argument à moi, c'est que d'abord, le grand sphinx n'avait pas de barbe. Or, Khéops, la petite statue, n'a pas de barbe non plus. Khéphren a toujours la barbe. Les statues que vous voyez à Céphale et qui semblent ne pas avoir de barbe, ça fausse votre impression parce que à la 4e dynastie, la barbe, le tenon, arrive jusqu'au cou. Donc, vous ne voyez pas la barbe si vous n'avez que le bas de la statue. Donc, ça, c'est à retenir aussi. Et ce que je pense, moi, c'est que si, à la sixième dynastie, sous le règne de Pépi, voici la mission japonaise de l'université Waseda a découvert à Saqqara, dans un sanctuaire rupestre, un dépôt de statues, parmi lesquelles, en terre cuite, un lion, que voici, qui a, ça c'est un article de Nozomu Kawai, dont j'ai pris ces, à qui j'ai emprunté ces photos. Le lion donc, comme un lion accroupi, entre les pattes, il y a d'abord le nom de Khéops, à lire du côté de la personne qui est là. Et voici, il reste de l'image de Khéops, son pied, une partie de son pied gauche avancé. Ça veut dire qu'il y avait une statue du Khéops, tout petit ici, contre le poitrail du Sphinx, comme ce que vous avez vu plus tard, adossé au poitrail. Et avec ce dépôt, il y avait plusieurs statues d'une déesse à tête de lion, debout, l'une tenant un papyrus même, donc c'est la future Sermet, une déesse lionne, sans nom, mais encastrée de part et d'autre de ses jambes, de petites statues royales, représenté en enfant, le doigt à la bouche, qui sont nommés, l'un est Khéops et l'autre Pépi. Donc au plus tard, sous la sixième dynastie déjà, il y avait cette combinaison de groupes statuaires qu'on n'avait pas avant. C'est le hasard de la conservation. Je vous rappelle qu'on a un petit sphinx de Merenre, deux. Donc, ces statues des déesses sont flanquées de deux images royales. Ce n'est peut-être pas un hasard que le lion soit associé à cette époque-là à Khufu, et non pas à Khéops, et non pas à Khéphren, ou à quelqu'un d'autre. Donc, sous la sixième dynastie, je pense que ça c'est un bon argument. J'ai dit cela à l'auteur, Nozomu Kawai, il a commencé à réfléchir et j'attends le retour de sa réflexion. En tout cas, voici qui nous met au début des groupes statuaires, encore petits, modestes, mais vous allez voir comment ça va grandir. Le lion ou la lionne, quant à elle, elle existe dans les temples funéraires depuis au moins, elle existe en forme de figurine, comme vous avez vu, à Elephantine ou à Nechen, ou dans les sites du Delta. Mais dans le temple funéraire de Snofru, Fakhri a trouvé ce petit fragment où la déesse lionne embrasse le roi Snofru. En fouillant le temple funéraire, le temple de la vallée de la pyramide rhomboïdale de Snofru. De la quatrième dynastie, la même déesse apparaît dans trois dyades. L'une, dont il ne reste que le trône avec quelques bribes d'écriture, je ne la montre pas, mais c'est là qui a été trouvée à Giza, autour du temple de Khéphren même, qui représente, vous voyez, assis sur un même trône, sans dossier, le roi ici et une déesse avec la robe qui s'arrête aux chevilles et qui est nommée, c'est la déesse Bastet. Bastet, à Tel Basta, à Bubastis, était vénérée depuis la haute époque et là, à l'ancien empire, elle a déjà un temple. Avant que le temple s'agrandisse et devienne le temple gigantesque que vous voyez quand vous visitez Bubastis, il y a de l'autre côté de la rue un temple de la sixième dynastie qui est sur les traces d'un temple plus ancien. Donc la déesse Bastet et la déesse Lyon, à cette époque-là, vénérée, qui plus tard changera de nom, elle deviendra Sekhmet, où ce sont des aspects différents et des noms différents de la même puissance divine qui se manifeste en lionne. Alors, une des premières représentations du Sematawi ici, en haut relief, sur le dos, avec un dieu Nil qui s'avance en apportant un plateau d'offrande, comme vous voyez ici. Cette diade en gneiss, ou en ce qu'on appelle le Kefren Diorite, est au musée du Caire. L'autre est à Hildesheim, elle est en albâtre égyptien, et elle représente une déesse à tête de lion qui est enlacée, qui enlace un personnage à côté. C'est ce que Seidel, dans les Statuengruppen der Könige, in Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 42, propose de voir, de compléter ici. Vous voyez, c'est une. Lui, il dit Katzen, il dit à tête de chat, mais moi je pense que c'est un lion. Donc, les variantes de Sphinx, très vite dit. Après, donc, si on admet que le grand sphinx c'est Khéphren, son successeur a laissé un tout petit sphinx à Djédéphré à Abou Rawash, que voici, qui était à face humaine, féminine, et qui a été plus tard transformé en sphinx à crinière de lion. Ce type aura un grand avenir, surtout avec Hatshepsut, mais en passant par, naturellement, le Moyen-Empire. Au Moyen-Empire, il y a toute une série de sphinx attribués à Amenemhat III qui ont été réutilisés, réinscrits à plusieurs fois, d'abord dans un site du Delta par les Ramessides, ensuite par les Tanites à Tanis. Ces sphinx-là, il y en avait six, un cassé dans le jardin du musée du Caire, les autres étaient à l'intérieur. Maintenant, il faut que vous cherchiez. L'un est au Grand Musée, l'autre est dans un autre musée, et donc il ne reste plus qu'un au musée du Caire. Ce sphinx avait la variante de ça, il y avait même une diade de sphinx trouvée par l'Abbé Pabashi et publiée. Et là, vous voyez un des sphinx à crinière de lion de Hatshepsut qui vient de Deir el-Bahri. L'un est au Caire, l'autre au musée, au Metropolitan Museum of Art. Donc, le type perdure et. Une autre variante de sphinx, et ça c'est penser au petit Khéops devant le poitrail du lion, ceci se répète ici avec un sphinx du Moyen-Empire attribué à Amenemhat III, aussi qui vient d'El-Kab, c'est en calcaire. Et vous voyez, c'est la même attitude, la crinière de lion, le visage humain, la barbe royale, et entre les pattes, il y a un personnage. Borchardt, qui a publié ceci pour la première fois, n'en était pas sûr, et j'ai discuté avec tous les conservateurs du musée du Caire. Nous sommes allés avec des torches, des lumières. Ce n'est pas très très clair. C'est une dame. Est-ce que c'est une reine? C'est une déesse? Elle a une sorte de couronne, mais ce n'est pas sûr. J'espère que quelqu'un publiera ce sphinx dûment et on saura. En tout cas, voici le début des sphinx maintenant, c'est-à-dire de l'être hybride, mi-lion, mi-homme, à crinière de lion, qui débute ici au Moyen-Empire, de 12e dynastie. Type va se développer en plusieurs variantes, c'est des feuillets que vous tournez et vous trouvez soudain. Exercez-vous toujours à regarder les différences et qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui apparaît. Et ça, c'est un bon exercice. Et puis, ça vous donne des critères de datation. Donc, sous le règne d'Amenemhat II, voici le même type qui se répète avec une petite statue qui a été trouvée dans la cour de la cachette, que voici. J'ai eu de la chance d'avoir de très très belles photos du musée du Caire, mais cette statue est maintenant au Grand Musée égyptien. Elle n'est plus au Caire. Donc, voici, posée sur un haut socle qui a la forme d'un naos, avec une corniche à gauche et un tore qui fait le tour du socle. Voici un bélier accroupi avec les jambes repliées vers l'arrière et protégeant contre son poitrail une statuette du roi Amenhotep II, debout dans l'attitude de la marche et portant le panier court devant au triangulaire sur lequel vous verrez. Ça deviendra ensuite, c'était déjà la grande mode au Moyen-Empire. Le roi est debout et il pose les mains à plat sur son tablier triangulaire. C'est ce type-là. On disait autrefois le type en prière, mais vous avez écouté la communication de l'autre jour de Laurent, par Laurent L'Orant. Par Olivier Perdu, et vous avez vu que ce geste est celui de l'adoration plutôt. Le geste de l'adoration est un bélier. C'est tout petit, mais c'est le début d'une vraiment grande aventure de représentation de bélier sur les avenues processionnelles et un peu partout. Quand vous allez à Thèbes, vous voyez toutes les catégories. À Thèbes, Agnès Cabrol avait fait une très très bonne thèse sur les avenues processionnelles de Thèbes. Et une jeune étudiante, l'autre jour, m'a dit qu'elle ferait la même chose sur les avenues du Fayum. Je lui souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de succès. Ce type donc, sous le règne d'Amenhotep III, cette fois, est représenté par d'abord un immense chacal, ici, que j'ai eu le plaisir d'étudier et d'aider à rassembler avec la mission suisse au temple de Meremta, où ce matériel avait été remployé dans les fondations du temple de Meremta et qui provient du temple d'Amenhotep III. C'est avant d'aller travailler là-bas que j'étais ici. Donc, il y a ce grand. Malheureusement, la direction a voulu que la tête soit déposée ici. J'ai fait un petit montage pour vous montrer que voici le chacal dans la même attitude que le bélier, mais les jambes maintenant, c'est étendu devant lui. Ce n'est pas un chacal, à corps de chacal, mais c'est un sphinx à tête de chacal et à corps de lion. Le voici. Et devant le poitrail de ce sphinx cynocéphale, il y avait la statue dans la même attitude et le même costume qu'Amenhotep II, quelques règnes plus tôt. Et voici comment a été trouvée la tête dans les fondations du temple de Meremta. Réutilisation, remploi et de matériel. J'ai aussi eu le plaisir d'étudier là-bas, et j'espère qu'un jour je terminerai la publication, des morceaux d'une très longue avenue de chacal, plus petits, mais ce sont quand même des grands monuments, d'une avenue bordée de lions cynocéphales mis sur des grands naos. Voici une reconstitution de Gérard de Baer ici, avec donc c'est en grès maintenant, et en grès polychrome. Voici une très très belle tête de chacal trouvée par Petri autrefois quand il a fouillé le temple de Meremta, et un morceau de son cou. Avec une tête. C'est cette tête-là que moi je placerai sous la tête de chacal, mais la direction a décidé d'en faire autrement, c'est plus pittoresque. Il y a un autre buste d'Amenhotep III. Donc voici ça, c'est là. Et tout est fragmenté. Tout a été utilisé dans les fondations. vraiment tranchées. Les têtes coupées, et, probablement il y avait un tremblement de terre, tout a été tombé. Et donc les architectes du temple de Meremta s'en sont servis comme matériel de construction. Ils se sont servis d'autres statues comme statues, en réinscrivant et en réactivant et en remettant dans le temple de Meremta. Mais ça, c'est une autre. Ce type a été vite imité par Ramsès II, qui admirait Amenhotep III et qui a en beaucoup de choses à faire. Et il a même essayé de surpasser les dimensions. Voici une avenue de chacal qui, elle, entourait le temple de Ramsès II, le Ramesséum, où Christian Leblanc et son équipe ont trouvé ici une tête, trouvée jadis, là des pattes, des morceaux de corps, et voici reconstitué l'avenue qui entourait le Ramesséum. Le bélier, quant à lui, donc ça c'était les chacals, qui ont eu une courte durée, on ne les verra plus, malgré le fait que Strabon parle d'avenue de chiens. Mais à cette époque-là, ces chiens-là n'existaient pas. Il a dû y avoir une autre avenue de ça. Mais le bélier, lui, perdure. Voilà, je vous donne des exemples. Le petit, commençant par le petit monument d'Amenhotep II. Puis Amenhotep III avait une longue avenue de bélier protégeant le roi. Devant la porte du temple de Khonsu. Puis Richard Fazzini en a trouvé de l'époque plus tardive, attribuée à Taharqa, dans le temple de Mout. Et à Karnak, dans une des avenues qui partait, ou qui aboutissait, qui partait du 10e pylône, ou aboutissait au 10e pylône, il y a une série de sphinx qui, d'après Tronecker, avait eu, ça c'est le dessin de l'article de Tronecker, représenté non pas des lions, ou mais des têtes du roi et de la reine, en vis-à-vis. Voici le dessin qui montre. Donc, ensuite, elles ont été décapitées et réutilisées en ajoutant des têtes de bélier. Ne prenez pas ça comme exemple, à droite c'est autre chose. Donc, Jocelyn Berlandini a découvert dans les réserves de Karnak des statues de roi de Toutankhamon qui lui avait en remaniant cette avenue de Sphinx. Vous voyez, sur leur poitrail, il y a des longues mortaises. Là, s'encastraient ces statues-là que Jocelyne a trouvées à Karnak. Et en ce moment, il y a toute une série qui sont au musée du Caire et qui donc proviennent de cette avenue. C'était une avenue recyclée, redevenu tête de bélier pour l'emblème d'Amon, et avec le roi dans l'attitude, les bras croisés et tenant les insignes, coiffé d'une émesse. Et donc ici, ce ne sont pas des béliers, ce sont des vrais sphinx. Et ceci a été vite imité par Ramsès II, qui voilà, au temple de, attendez, oui, devant, sur la voie processionnelle ouest du temple d'Amonré à Karnak, que voici. Vous voyez, maintenant, ce sont des vrais lions, ce ne sont plus des béliers. Donc, pour ça, je pense que, aussi pour des raisons stylistiques, ces sphinx-là ne peuvent pas être antérieurs à Ramsès II. Au plus, c'était le premier que Ramsès aurait réinscrit. Je suis allée les réétudier, et c'est à coup sûr Ramsès II. Elles ont été plus tard réinscrites par Pinedjem. Quelques exemples d'autres catégories de sphinx. Donc, s'il y a un sphinx qui est un roi, qui est là pour recevoir des offrandes, ils sont sur le passage, ou qui est un dieu, avec les traits du roi, qui reçoit des offrandes. Il y a en contrepartie des sphinx qui offrent. Voici des exemples. Un très bel exemple en bas-relief au temple de Séti Ier à Abydos, à l'entrée de sa chapelle. Et puis, des beaux exemples de Ramsès II, celui-là par exemple, qui vient de la cour de la Cachette, ainsi que celui-là, qui sont au musée du Caire. Et donc, en revenant au temple de Wadi Seboa, on a franchi cette avenue de Sphinx qui, déjà, à elle, tout seule, a montré trois catégories de Sphinx. Et pensez à ceux de Hatshepsut, à Deir el-Bahari, où il y avait aussi une multitude de Sphinx qui ont été fragmentés plus tard, mais que la mission polonaise est en train de restituer. Et il y a de très beaux exemples. Donc ça, c'est... Quand on revient au temple de Wadi Seboa, on voit à l'entrée du pylône, donc on a les sphinx derrière soi, à l'entrée du pylône, deux statues portent en scène du roi, Ramsès II. L'un est debout et l'autre est gît à côté du temple, au nord. Et je trouve que c'est très bien de ne pas l'avoir remonté parce qu'elle n'a plus de jambes et c'est assez romantique comme ça, et ça fait penser au temps des découvertes, au temps des... il ne faut pas toujours tout restaurer. Parfois, quand moi je le fais, c'est parce que sinon c'est détruit. Mais si ce n'est pas nécessaire, on ne le fait pas, et c'est très joli, je trouve. En revanche, elle n'a pas de jambes, la couronne double est à côté, mais la princesse qui était près de sa jambe gauche est au musée d'Aswan, au musée nubien d'Aswan. Alors, c'est une bonne occasion pour vous parler brièvement de groupes statuaires du couple royal ou de la famille royale. Donc, voici le premier exemple connu qui est à Munich, publié par Dreyer et... j'ai oublié le nom. J'ai un trou de mémoire. Dreyer et Jack Josephson. C'est un tout petit objet en ivoire qui représente sous un dé deux personnages assis, c'est le roi et la reine d'après eux. En bas de leur trône, il y a deux animaux. Et des deux, quand vous le voyez de dos, là, il y a des courtisans accroupis. Mais ici, de part et d'autre du couple royal, il y a deux figures beaucoup plus grandes qu'ils n'ont pas identifiées, peut-être des divinités, je ne sais pas, protectrices, je ne peux pas dire. Donc ça, c'est un des premiers exemples de l'apparition du couple royal. Et dans le complexe funéraire de Djoser, il y a ce groupe de quatre paires de pieds, deux grands, deux petits. C'était probablement aussi, je crois, la famille royale qui était représentée, roi et reine, avec les jambes plus grandes, comme ce relief de Djoser, d'une chapelle de Djoser, trouvée à Héliopolis et qui est maintenant à Turin, au musée Egizio. Vous voyez, il y a trois dames de la cour qui entourent les jambes du roi. Et la famille royale est toujours présente dans les temples funéraires royaux. Ici, par exemple, les reliefs de Mentuhotep Nepépétré, qui sont entre le Metropolitan Museum et le musée du Caire. Le roi est assis et enlace très, très joliment son épouse, Khemsit. Et là, le roi est debout en tenant un sceptre en forme de papyrus. Le registre inférieur vous montre le couple royal, et ça, vous est bien connu, Akhenaton et Nefertiti, qui se présentent toujours ensemble. Et au fur et à mesure que les enfants naissent, ils y ajoutent. Donc là, il y a un relief encore sur une talatate de Karnak. Et à droite, il y a une représentation du couple royal ici, près du lit. Nuptial, et c'était publié par Tronecker autrefois. Maintenant, c'est repris par Robert Vernieu, qui où est parti le relief? Ah, j'ai perdu. Qui m'a fait le plaisir de représenter le baldaquin avec le lit. Mais peut-être ça viendra où je l'ai perdu. J'ai dû raccourcir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, famille royale c'était l'épouse. Ici, c'est la mère royale. Dans le cas de Mykerinos, ici, à Boston, provenant du temple de la vallée. Et là-bas, dans le cas de Thoutmôsis IV, qui est représenté avec son épouse Tia, sa mère, la mère royale Tia. Et trois très, très belles images de couples royaux que j'ai empruntées au beau catalogue de Christophe Barbotin au Louvre, tous les trois au Louvre, donc en faïence, la reine avec le roi, cette pierre jaunâtre. Derrière, vous connaissez cette statue, sinon allez au Louvre la voir, il y a le bras de la reine qui enlace le roi, et là une très très belle paire, une statuette qui représente le couple royal d'Akhenaton. Auparavant, il y avait une statue monumentale d'Amenhotep III de la reine, et maintenant les enfants s'y sont ajoutés, trois princesses. Et voici comment ça a été trouvé dans la cour de Medinet Habu autrefois et a été reconstitué au musée du Caire. Moi-même, j'ai eu au temple de Meremta, j'ai eu affaire à un groupe statuaire semblable avec les reines et les princesses représentées non pas en rond de bosse comme ici, mais en bas-relief. Et je reviens à Akhenaton. Donc, il y a Madame Thompson a trouvé à Tel el Amarna une représentation d'une statue de la famille royale que voici. Et c'est une statue parce que c'est posé sur un socle. À University College, il y a en rond de bosse la même représentation avec une princesse qui suit. Et là-bas, le relief que je vous ai montré tout à l'heure et qui va revenir tout à l'heure, où le couple royal est debout ici. Vous voyez les jambes sans doute. Plus tard, Meremta, sous le règne de Meremta, il y a le vizir Panessi qui s'est fait représenter à Deir el-Médineh avec une statue double du couple royal du temps de Meremta. Et là, cela vous fait penser à Soleb, très bien étudié et publié par Nathalie Beau sur les archives de Michaela Schiff-Giorgini et de Monsieur Leclan. Vous voyez qu'il y a, j'espère que vous voyez bien, le roi assis, la reine et trois des infantes derrière. Donc, c'est la transposition en deux dimensions de statue que nous avons. Et ici, c'est une représentation de la statue elle-même, comme celle-là. Et voici ce que Robert Vernieu a eu. C'est pour vous amuser, ça. Vous voyez le relief que vous avez vu. Et maintenant... Et le couple que vous avez vu là-bas est là. Et bientôt, j'aurai une animation de cette scène-là. Sur la façade, on revient à Wadi Seboara, il y a la représentation qui vient devant deux diades ici, avec Amon, et ici le roi. Ces diades-là, nous n'avons pas les statues. C'est un très bon hasard que nous ayons eu les sphinx et la venue. Donc ces diades-là, nous ne les avons pas ici, mais dans d'autres temples, dans beaucoup de temples du Delta, par exemple, ici à Bouto, il y avait deux diades, l'une du Moyen Empire remployé par Ramsès II dans cette cour, du temple qu'il a construit à Bouto, qu'il a agrandi, et une diade de Ramsès II lui-même avec la déesse Léontocéphale. Dans le même temple, il y a une statue portant scène, exactement comme celle que vous avez vue à Wadi Seboua. Donc, petit à petit, on peut regrouper ce qui se passe dans un temple. Toutes les statues sont dispersées. Il faut vraiment aller chercher à la loupe lesquelles vont où et encore. Elles sont redispersées. Donc, très vite, je vous montre, s'il y a une statue qui reçoit, il y a un roi qui offre. Premier exemple du roi offrant des vases nus, c'est à Île de Sein, trouvé autour du temple de la vallée de Khéphren. Donc, ça doit être une main d'une statue de Khéphren. Les représentations ramessides de Karnak vous montrent là comment le roi agenouillé apporte ses offrandes. Et la statue de Horemheb offrant des vases de vin à Toum, qui a été trouvé dans la cachette de Louxor, vous démontre cela parfaitement. Quand il y a un roi à genoux, il y a un dieu qui reçoit. Et les offrandes peuvent varier des vases nus au début jusqu'à une table d'offrandes, une des rares statues restées en place à Karnak, ici de Toumosoristo, et une statue de Séti Dieu à Mataria, à Héliopolis. Des statues de rois prosternés, comme Ramsès II en a de très très belles, au musée du Caire, provenant de la cachette, qui apporte un plateau d'offrande ou l'emblème d'Amon, le bélier. Et avec ça, il y a aussi des statues debout qui offrent. Je vous donne l'exemple d'Akhenaton, ici, sur les reliefs. Vous voyez le roi debout apportant une tablette qui a son pendant en rond de bosse avec ses statues en costume plissé, une statue inachevée, et là, un torse en costume plissé et polychrome à Oxford. Des diades, il y en a eu beaucoup au Moyen Empire, mais elles nous arrivent très très fragmentées. Trois diades d'Amenemhat, pardon. Premier, l'une au Fayoum, provenant de Kimam Faris, maintenant exposée dans une cour, une à Karnak et une à Tod. Ça, c'est une image d'archives de l'IFAO que je remercie. Et la déesse, dans l'une de ces diades-là, tient un papyrus, comme autrefois à Saqqara, et qui continuera de le faire dans les bas-reliefs. Un exemple parmi tant d'autres, à Tanis, il y avait la représentation du roi avec la déesse Léontocéphale, les deux couronnés du disque solaire. Et aussi par nostalgie, je vous montre comment Ebers a vu pendant les fouilles de Mariette Tanis, qui était un grand musée de plein air et qui, parce que par sécurité, toutes les statues sont dispersées, mais vraiment dispersées de par le monde. Des diades qui représente cette fois le roi assis avec une divinité, Hiéracocéphale, dans cet exemple, avec Amenhotep III ici au musée de Louxor et Horemheb à Vienne. Des diades représentent un roi, un dieu et une déesse, ou deux dieux. Voici les exemples de Séti Ier, ici à gauche, et à droite, aussi un exemple de Séti Ier qui a été réinscrit par Amenmes plus tard, à la 19e dynastie, et des exemples de rois qui font sûrement partie de cette catégorie, par exemple Khéops, qui tenait un sceptre Necher, plus tard Amenhotep III, Ramsès II, le très beau Ramsès II de Turin, Taousret, en dernier lieu, là-bas assise, et elle est bien exposée au Grand Musée maintenant, cette statue qui était dans une réserve, et qui commence naturellement par la mère royale de Pépi II, avec l'enfant roi sur ses genoux. Et presque termine, en vous montrant cette image où il y a la déesse la déesse qui, comme autrefois Pépi, sous Séti Ier, porte une statue de Séti sur ses genoux, et les deux flanquent une statue de Ptah, parce que c'est dans une chapelle de Memphis, où Ptah, qui était dédiée à Ptah. Donc, c'est multiple. Il y a le couronnement du roi qui est représenté non pas seulement en relief dans tous les temples, mais aussi en rond de bosse. Voici Amenhotep III que j'ai reconstitué avec une tête venant d'Alexandrie au musée de Louxor. Et là-bas, une belle statue d'Amon couronnant Toutankhamon au Louvre, que vous connaissez bien et qui est très très bien décrite par Christophe Barbotin. Et en dernier lieu, avant-dernier lieu, une image de roi, de déesse vache en tant que vache zoomorphe protégeant le roi Ramsès II, ici au sanctuaire du petit temple d'Abou Simbel, et là-bas dans une tombe rupestre de l'Anubéum découverte par Alain Zivi. Dans la même attitude que tout à l'heure avec le bélier, voici la vache d'Hathor qui protège le roi, des reliefs qui... je suis désolée, j'ai une autre version ici. Donc je crois qu'avec ça, on peut terminer les diades. Et je comptais m'arrêter là-bas, mais je vous montre, puisqu'elles sont là, le roi enfant, pensez à Pépi, qui est Ramsès dans ce cas, avec le faucon Hurun, qui a été trouvé à Tanis, bien publié pour commencer par Rainer Stadelmann, ensuite par Dominique Valbel, dans un très bel article dédié à Rocati sur le faucon et le roi, au musée du Caire encore, la statue. Et je termine avec des images qui ont laissé leur souvenir de groupes de quatre personnages au temple de Wadi Seboa, de part et d'autre de l'entrée au sanctuaire. Vous voyez le roi en compagnie de Chou, Tefnut et Anouket d'une part, et de Ptah, Ptah Tenen et de Hathor de l'autre, à tête de vache, qui met le groupe statuaire a été remplacé par des saints à l'époque chrétienne. Donc il faut vous imaginer qu'ici il y avait à la fin du temple de Wadi Seboa, que je vous souhaite de visiter. Il y a de très belles croisières sur le lac Nasser. Et Sylvie se souviendra, nous l'avons fait le tour ensemble. Et voici, je vous remercie.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.